De retour dans les studios de Canal, on était en pleine discussion, on a été surpris par la petite lampe rouge qui nous indiquait qu'on était à l'antenne. Alors ces temps-ci, pas mal d'actualités concernant les libertés, et le manque de liberté en tout cas sur Internet. Alors ce matin, Valls nous a annoncé des nouvelles mesures contre le terrorisme, et d'ailleurs la Quadrature du Net a répondu dans la foulée non au double discours sur les libertés. Je vais pas vous lire le communiqué de la Quadrature du Net, je vous oriente vers leur site internet quadrature.net
.org ou lqdn.net, je crois que ça passe aussi. Ouais.
Voilà, et puis récemment aussi, courant décembre, le guide d'autodéfense numérique qu'on vous conseille fortement et qui est paru en format papier, donc aux éditions Time Party, une super maison d'édition qui édite des livres qui sont copyleft d'ailleurs, et donc le guide d'autodéfense numérique est disponible depuis décembre 2014, donc ça fait à peine un mois, et il est disponible sur internet en commande ou bien alors dans vos librairies Terra Nova et Ombre Blanche à Toulouse. Alors on reçoit dans les studios Xavier Mouton Dubosc,
merci.
N'est-ce pas? J'avais oublié la deuxième partie du mot famille.
Non, pas de soucis.
Et Solarus, donc qui sont deux membres du Parti Pirate, je l'ai appris hors antenne, et donc Xavier Mouton Dubosc est notamment co-organisateur de la crypto-party qu'on vous annonçait ce midi et dont on va parler ce soir, entre autres. Alors, déjà, une crypto-party, c'est quoi?
Alors, une crypto-party, en fait, c'est au moment où il y a eu, je vais dire, énormément de lois qui parlaient de plus en plus de renseignements, d'écoute globale des gens et tout le reste. Il se trouve qu'en Australie, il a été question d'espionner Internet. Et de suite, évidemment, il y a eu tous les actifs. C'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2012. Et en fait, il y a énormément de gens qui, évidemment, ont commencé à s'offusquer et tout. Et au bout d'un moment, il y a une personne qui s'est dit « Bon, d'accord, on s'offusque, mais en fait, moi, je ne comprends pas vraiment l'outil informatique. Expliquez-moi. » Et en fait, le principe de la crypto-partie est très simple. Il est « Quand on comprend, on peut mieux se défendre. » Quand on comprend, quand on a une réelle maîtrise, on a aussi une partie du pouvoir. Alors le problème, c'est qu'actuellement, on est passé d'une élite, surtout en France d'ailleurs, d'une élite de grandes écoles, d'une élite politique qui en fait un métier au lieu d'en faire un mandat. On passe de plus en plus vers une élite de la manipulation de la donnée. Donc, en fait, l'élite de ceux qui savent développer, ceux qui savent ce qu'est qu'un ordinateur, ceux qui ont accès au point névralgique des réseaux Internet et téléphoniques. Et qu'à partir de là, ils parlent leur langage à eux, ils mettent des outils qui essaient d'être le plus accessible possible,
mais
toute la question reste, ces outils que l'on essaie de mettre accessibles à tout le monde et à rendre compréhensibles, ou au contraire, à les planquer pour, comme par hasard, ne pas les rendre compréhensibles, justement, les expliquer au grand public.
Les expliquer au grand public. Alors, mais du coup, comment on s'y prend pour les expliquer au grand public? Alors, moi, j'ai parlé tout à l'heure du guide d'autodéfense numérique. Vraiment, je le conseille. Bon, c'est un peu lourd, ça fait 500 pages, mais ça reprend de A à Z vraiment toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la compréhension de comment fonctionne déjà non seulement un ordinateur, etc., mais aussi le réseau et qui se l'accapare et comment il se l'accapare, quoi. Alors, comment on s'y prend du coup pour essayer de comprendre un petit peu tout ce bordel? Parce que ça fait quand même un sacré bout de temps et c'est quand même de la technologie qui est pas très accessible quand même. Enfin, bon. On n'a pas de.
Il y a un technicien barbu, et je suis sûr, crypto-communico-écolo, qui a oublié de monter le micro.
Qui a oublié d'ouvrir le rouge. Oui, alors, Solarus, du coup. Ouais.
Voilà, donc je disais donc, en fait, le plus simple pour expliquer l'informatique, et notamment des notions de chiffrement et tout, c'est de prendre des exemples par rapport à la vie réelle.
Alors, allons-y.
Voilà, donc par exemple, quand on envoie un mail, par défaut, on envoie une carte postale. C'est-à-dire que ce que vous mettez dans votre mail, tout le monde peut le lire. Mmh. Et en expliquant que le chiffrement, c'est rien d'autre qu'une enveloppe pour mettre votre lettre dedans pour que personne la lise, à part le destinataire, les gens comprennent de suite. Donc
d'accord.
Après,
il y a donc ça, c'est le schématiquement.
Voilà, c'est schématiquement. C'est, voilà. Après, donc, il faut prendre les outils que les gens utilisent au quotidien, c'est-à-dire prendre leurs ordinateurs portables.
Les métaphores. De même voilà. Que finalement, ce que l'on a sur un ordinateur, ce qu'on appelle un bureau, un dossier, un document, un fichier, c'est une métaphore. Mmh. C'est une manière d'expliquer. Voilà. Après, étonnamment, les gens, des fois, sont relativement informés. Et justement, la formule sur laquelle on est arrivé plus ou moins sur Toulouse à mettre en place, c'est qu'on fait une courte introduction de 5 minutes sur un sujet, et après, on laisse le public poser ces questions. Mmh. C'est-à-dire éviter justement qu'on aille trop vite dans les questions trop techniques, mais au contraire, laisser les gens guider la conversation. Et justement, c'est passionnant. Des fois, des démonstrations qu'on a fait dans les bars où les gens, on ouvre son PC, on dit « Quelle est votre question ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre ?» Ou justement, ce genre de démonstration marche plutôt bien. Mmh. Étonnamment, il ne faut pas prendre les gens pour les idiots. Ceux qui viennent déjà ont envie d'apprendre.
Mmh. Oui, c'est ça. Voilà. Ceux qui viennent déjà ont envie d'apprendre. Mais comment on fait pour les gens qui n'ont pas envie d'apprendre, en fait ? Parce que le gros problème,
C'est leur libre arbitre.
C'est beaucoup plus simple de prendre sa tablette avec son Windows 8 et puis de cliquer sur 2-3 trucs et puis de se retrouver sur Facebook et de plus utiliser sa boîte mail et d'utiliser sa messagerie Facebook. C'est beaucoup plus facile. Bon. Donc, comment on fait pour que les gens aussi se rendent compte à quel point ils peuvent être espionnés, à quel point le système peut être aussi faillible, quoi.
Il y a des démonstrations qu'on fait ou qu'on peut faire avec les réseaux sociaux notamment, où on montre aux gens voilà, tout ce qu'un inconnu, qui aurait juste la page Facebook d'une personne, peut savoir sur elle. Mm-hmm. Moi, j'ai fait des démonstrations à ma famille, où je leur ai dit voilà, mettons, je ne prends pas mon compte, on ne se connaît pas, je prends ton compte Facebook, ce que je peux en lire de l'extérieur.
Tu peux en lire de l'extérieur, voilà. c'est-à-dire sans même avoir le mot de passe.
Sans même avoir le mot de passe, en se trimballant sur Facebook, en prenant le Facebook d'une personne, en allant voir ses amis, sa famille, on peut recouper énormément d'informations.
Mmh. Ses employeurs, sa date de naissance.
Et au final, avoir énormément d'infos sur cette personne, sans qu'elle l'ait voulu. Elle a disséminé des informations à droite à gauche, et on reconstitue le puzzle, et on a l'identité de la personne. Mmh. Donc c'est le genre de démonstration qui fait réfléchir les gens en disant attention à ce que je laisse traîner sur internet, parce que je le fais pas volontairement, je mets pas des photos de nu de moi sur internet, mais je laisse traîner des choses à droite à gauche qui rassemblées deviennent des informations personnelles privées.
L'une des grandes fumisteries justement concernant la surveillance globale, c'est de dire on ne récolte que les métadonnées. Alors qu'est-ce qu'une métadonnée ? C'est une donnée qui est périphérique, c'est-à-dire votre conversation téléphonique, c'est la donnée en elle-même. Les métadonnées, c'est le fait que vous composez un numéro de téléphone, que vous êtes à tel endroit. Donc c'est savoir que, par exemple, vous passez un coup de fil à 22h sur un 0899 au moment où votre femme n'est pas là. Ou que vous êtes sur le pont Neuf un lundi à 1h du matin et que vous passez un coup de fil à un centre d'aide justement de prévention sur le suicide. C'est une métadonnée qui dit tout autant finalement que la conversation elle-même.
Et la métadonnée est plus accessible que la donnée en elle-même ?
Eh bien justement, la loi permet de récolter les métadonnées et actuellement, les services de police ne s'en privent pas.
Elle permet à tout le monde d'y accéder ou pas à tout le monde ?
Pas à tout le monde, mais déjà, si tu laisses par exemple ton téléphone accessible à tout le monde sans accès, quelqu'un le prend, consulte ses derniers numéros, tu l'appelles,
bien sûr.
Voilà. C'est une démonstration qui est relativement simple et qui fait parfois toucher du doigt. Mmh. C'est vrai que j'ai eu un troll sur Twitter avec Jérémy Berébi, qui est l'associé Xavier Niel, il faut le savoir, et qui aussi vit en Israël. Donc lui, il est concerné par la surveillance sur un autre point de vue.
Bien sûr.
C'est-à-dire que lui, il est pour la surveillance pour une raison toute simple, c'est le problème de l'attentat.
Mmh.
Et je lui ai dit, d'accord, si tu n'as rien à cacher... Donne-moi ton numéro de carte bleue. Eh ben non, en fait, on a forcément quelque part une certaine pudeur, certaines choses que l'on veut bien cacher. Et si au bout d'un moment, peut-être qu'on a envie de cacher certaines choses, est-ce que ça doit nous rendre coupables justement parce que tout d'un coup, on n'a pas envie de tout montrer. Donc c'est tout le problème, l'exercice démocratique.
Il y a un fournisseur d'accès, je voudrais pas dire de bêtises, un fournisseur d'accès associatif qui a fait une petite expérience, qui a regardé les pics de trafic des accès internet de ses abonnés, et en quelques observations, il a été capable de dire quels étaient les horaires de consultation où les gens consultaient le plus de porno. Et en allant dans le détail, on peut voir quel abonné consulte du porno à quelle heure. Sans l'espionner directement, mais avec ses métadonnées.
Donc ça, c'est complètement légal, quoi. C'est autorisé par la loi ou pas vraiment ?
Oui et non, parce que en fait,
oui ou non,
il y a une loi qui s'appelle le CPCE, le Code des Postes et Communications Électroniques, qui est en vigueur chez à la Poste, chez les opérateurs de Internet, et qui garantit une certaine confidentialité, enfin une totale d'ailleurs confidentialité des correspondances. C'est-à-dire que le contenu de votre correspondance, que ce soit une correspondance papier ou numérique, il est normalement garanti par cette loi. Le problème, c'est que, comme disait Xavier, il y a des métadonnées qui trafiquent autour de ces données en elles-mêmes, et en récoltant ces métadonnées, ne serait-ce que l'adresse du site, si on voit que vous allez sur YouPorn plutôt que sur YouTube, ça se voit tout de suite. Et un opérateur peut savoir à quelle, avec de l'observation indirecte, à quelle heure tel abonné regarde du porno.
Sachant que, de toute façon, il en a besoin. Ne serait-ce que pour faire, pour estimer la volumétrie de son trafic, pour estimer s'il a besoin, puisque Internet, c'est des réseaux privés. C'est une union de réseaux privés, il n'y a pas dessus de trucs, d'infrastructures publiques ou quoi que ce soit. Donc ils ont besoin d'établir des ponts à certains endroits, parce que, par exemple, tout d'un coup, sur le faisceau sur lequel on mettait YouTube, on va avoir un Netflix qui va arriver et qui va consommer 8 fois plus de données, parce que à tel endroit, il y a justement tout ce qui concerne telle presse de tel pays et que tout le monde va le consulter, ils en ont besoin.
Et alors venons-en à la question dont on a parlé très rapidement tout à l'heure, mais moi je n'ai rien à cacher. Et pour en venir un petit peu aux choses un peu plus idéologiques ou un peu plus politiques, disons, dans le sens où, ok, on n'a rien à cacher, mais est-ce que c'est une raison pour donner toutes ces données ?
C'est toute la question, plus exactement, de la démocratie. Quand on parle justement d'attentat, là on est dans... il faut qu'on surveille, c'est un réflexe de peur, et c'est une loi qui n'est pas réfléchie, mais réflexive. Et en fait, le problème, c'est qu'on est nous-mêmes pris en otage, et à partir de là, on accepte un abandon finalement, à la fois de soi-même et d'une partie de sa propre réflexion. On commence à s'auto-censurer. S'auto-censurer, ça veut dire tout simplement, on ne vote plus, on n'exprime plus et on ne vote plus, alors qu'il y a le secret quand même du vote, dans sa propre, je vais dire, en son âme et conscience. Donc le jeu commence à être faussé. Et c'est un jeu très dangereux sur lequel Facebook s'est fait plus ou moins passer sur les doigts. Ils ont fait une expérience qui était intéressante.
Qui est ça, Facebook ?
Facebook a fait une expérience très intéressante. Ils ont pris un groupe de 600 000 personnes, arbitrairement, comme ça, au hasard.
600 000
utilisateurs, et on va montrer dans leur flux que des nouvelles positives, à la moitié d'entre eux, et sur d'autres, que des nouvelles négatives. Et à partir de là, on s'aperçoit que leur expression est très différente, que leur expression va changer dans les termes et tout ça. Ce que l'on peut reprocher à Facebook, c'est qu'ils n'ont pas prévenu ces personnes-là qui faisaient l'objet d'une expérience. Donc éthiquement, il y avait d'énormes problèmes. Mais d'un autre côté, ça posait de vraies questions et de vraies conclusions.
Parce que Facebook peut du coup maîtriser en fonction de ce qui apparaît sur le mur des utilisateurs, peut en effet maîtriser en fait l'expression même des utilisateurs.
Ils le font déjà.
Le tri de la donnée, c'est ce dont rêvent tous les fournisseurs de services. Facebook le fait. Google essaye de le faire avec un nouveau produit qui s'appelle Inbox, où au lieu de vous délivrer tous vos emails, ils vont trier les emails qui seront plus intéressants que les autres. Twitter, actuellement, le flux est totalement neutre, mais ils essayent de trier les données.
Ils y réfléchissent, et sur les versions mobiles, justement, dans ce qu'il y a à côté, etc., voilà. Ils y essaient.
Mais ils ne retirent rien. Et le tri des données, c'est un vrai problème, effectivement, politique. C'est-à-dire qu'au lieu de vous laisser regarder ce que vous voulez regarder
et chercher ce qu'on veut,
on va au mieux vous proposer des choses, au pire vous enlever des choses dont elles pensent qu'elles vous intéresseront pas, sauf que on décide à votre place. C'est un vrai problème, ça, des ce qu'on appelle les réseaux privatifs propriétaires qui s'opposent là au réseau libre,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de désactiver ces fonctions.
Voilà.
C'est ça.
C'est-à-dire, en soi, ces fonctions qu'elles existent, ces fonctions assistives qui, pourquoi pas, sont très intéressantes, mais c'est le fait de ne pas pouvoir les désactiver.
Et de ne pas pouvoir les paramétrer, de ne pas pouvoir les choisir, de ne même pas être informé qu'elles existent.
La plupart des gens ne savent pas que Facebook trie les informations à leur place.
Ils pensent que le mur qu'ils voient devant eux, c'est quelque chose de complètement objectif, ou en tout cas, c'est un paquet de choses qui arrivent et que...
Un exemple, moi j'ai entendu récemment dans ma famille, je vais plus sur Facebook, il se passe plus rien. Non, c'est pas qu'il se passe plus rien, c'est que selon les algorithmes de préférence, selon l'étude que Facebook a fait de la personne...
Ce qu'elle aime, ce qu'elle a liké souvent...
Elle ne trouve plus rien d'intéressant
à lui proposer, montrer. Quoi.
Or, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais le réseau, en l'occurrence Facebook ou n'importe où, décide à la place de l'utilisateur. Et ça, c'est un vrai problème.
Bon, alors là, du coup...
Je crois qu'il y a une question.
Ah, il y a une question là-bas, pardon.
Il y en a plusieurs, mais bon, qui sont liées, en fait. Mm-hmm. Hein. Voilà, trois cas. Alors, je vais parler de mon cas personnel, ce sera plus simple. Hein. Voilà, alors, on m'a inscrit, j'ai pas demandé, mais c'est comme ça, bon, sur LinkLink, donc, qui est un réseau professionnel.
LinkedIn.
Voilà. Ouais. bon, enfin bref, quoi.
Qui est
soi-disant, bon, un réseau professionnel pour se faire des relations, pour avancer, etc. Mmh. Je veux bien. Moi, ce qui me dérange un peu dans l'histoire, c'est que pour progresser, on est obligé de lâcher des infos perso, et c'est donnant-donnant un peu, quoi. Hein.
C'est le principe de la récompense, c'est la gamification. Oui. En soi, c'est-à-dire que c'est la même chose que pour un jeu vidéo. Tu vas pouvoir gagner un boss et tout, etc. Donc on te met un pourcentage, on te donne une médaille. Et ça, c'est ce que l'on appelle de la manipulation. Proactive, c'est-à-dire soi-disant c'est pour le bien des personnes, c'est le même genre de manipulation par exemple que le fait de mettre un cendrier à l'entrée d'un bâtiment pour être sûr que les gens écrasent leur clope avant de monter. Mais ça aussi, c'est, je vais dire, ça fait partie, c'est pas quelque chose qui est gravissime en soi, mais ça peut devenir problématique si certaines personnes qui le font volontairement commencent à donner des informations d'autres personnes.
Oui,
d'accord.
Ça c'est un problème effectivement. Déjà à la base, si on vous a inscrit sur LinkedIn sans votre accord, on a usurpé votre identité.
Enfin, sans mon accord, on m'a envoyé une invitation, comme je connaissais le gars, je l'ai accepté.
Oh,
voilà,
oui.
Bon.
Mais
bon.
Ça effectivement, il y a un vrai problème après de collecte de données, c'est-à-dire quand vous inscrivez sur la plupart des applis maintenant, on va vous demander l'accès à votre compte Facebook, à votre carnet d'adresse. Et on va récupérer les numéros des gens qui sont dans votre carnet d'adresse, on va récupérer tous vos contacts Facebook. Et en fait, même si vous êtes absent de ces réseaux-là, même si vous êtes absent de Facebook, absent de WhatsApp ou je sais quoi encore, à force, on va reconstituer votre réseau et on va vous encercler. C'est-à-dire qu'on va avoir votre père, votre mère, votre frère, votre conjoint, votre collègue de travail. Et dans cette toile, il va y avoir un trou et ce trou, ça va être vous. Et en fait, on va vous définir, on va vous identifier par la négative, par l'absence. Vous serez absent, mais vous serez identifié comme absent.
C'est intéressant, ça. Ouais. C'est intéressant, très intéressant.
Donc, toute la question, effectivement, à partir de là, elle est de savoir arriver à écarter les informations. C'est le thème, justement, que l'on a demain sur l'identification, puisqu'il y a l'usurpation d'identité. Il y a aussi les questions, par exemple, sur le paiement bancaire, sur la sécurité du paiement bancaire. Tout ça, c'est ce qui nous définit, effectivement. On est la dernière génération. Enfin, toi, je sais pas. Moi, je le sais. Sous la rue, je suis pas sûr. Je crois qu'il est un peu trop jeune. Le mec là-bas, en régie, oui, je suis sûr, mais on est les derniers à avoir connu une vraie vie privée.
D'accord. Alors, j'avais dit trois points, donc le deuxième point.
le tentant.
Rapidement. Alors, le deuxième point, c'est les jeux multijoueurs en ligne. Moi, je donne jamais d'infos perso, je raconte que des conneries. C'est-à-dire, bon, je suis pas basé à Toulouse, je suis à Lyon, je m'appelle peu importe, enfin voilà, même mon prénom, voilà, aucune info perso. Tout est sous pseudo ou alors des grosses conneries.
Est-ce que ça marche, ce genre de...
Est-ce que ça marche, voilà, est-ce que c'est efficace?
Il faut se méfier, parce que j'ai vu une démonstration qui est assez flippante, où effectivement, à donner des fausses infos, on arrive à trouver les bonnes infos sur toi.
D'accord.
Le truc, et je peux vous le donner, c'est pas donner que des mauvaises, infos.
D'accord, faut faire un panaché.
Ou alors, il faut être extrêmement rigoureux sur la persona que l'on crée.
D'accord.
En fait, sur
Internet... Utiliser peut-être aussi des outils d'anonymisation, peut-être
Oui, mais bon, quand il faut rentrer des données...
En fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas des sites marchands qui ont une obligation légale de prendre vos données personnelles, qui ont une obligation légale de les traiter correctement. Et si vous donnez des fausses infos, bah ça peut notamment...
Ça peut être un prétexte pour que eux ils cherchent un peu plus loin. Quoi, non
ça peut notamment, si vous donnez des fausses informations, invalider la garantie. Mm-hmm. Parce que si vous appelez le SAV en disant « je suis Monsieur Dupont » et que dans le formulaire vous avez mis « je suis Monsieur Tartempion », ils vont grincer des
dents. Ils vont faire sauter le truc.
Par contre, tous les autres sites sur lesquels vous avez des informations à rentrer, j'invite tous les gens à rentrer des fausses informations. Et d'ailleurs, je lisais un quiz de la CNIL à destination des enfants, où la CNIL donnait comme conseil aux enfants de mettre des fausses informations en disant si on vous demande votre nom, si on vous demande votre adresse, donnez un faux nom, donnez une fausse adresse.
Ouais.
Et ça, je trouve ça une bonne initiative de la part de la CNIL. Et ça ne devrait pas s'adresser qu'aux enfants, on devrait donner ce conseil aux adultes aussi.
Qu'une bonne partie de la question est l'éducation actuelle. Et est-ce que justement on apprend suffisamment tôt à protéger sa propre vie privée ? La plupart des fuites d'informations que l'on a sur les réseaux sociaux viennent d'enfants. Parce qu'ils ne savent pas se réfréner, c'est très difficile. Ils ne savent pas mentir non plus, c'est ça qui est compliqué. Et c'est pas pour rien qu'aux États-Unis, il est interdit que les enfants s'inscrivent sur les réseaux sociaux en dessous de 14 ans. Et normalement, Facebook refuse les enfants de moins de 14 ans partout dans le monde puisqu'ils sont basés aux États-Unis.
Mais oui, mais ils rendent des mauvaises informations, les enfants de moins de 14 ans. On vient de leur conseiller, la CNIL leur conseille même. Eh bien, il va être l'heure de rendre l'antenne.
Oui, j'aurais un dernier point. Allez, donc, rapide. Voilà, on va parler de Pôle emploi. Pôle emploi qui, pour faire sa déclaration annuelle et donc pour toucher ses allocations, demande un certain nombre de renseignements. Et le truc, c'est que, alors, soi-disant, c'est confidentiel, c'est privé, voilà, patati patata. Le truc, c'est que si on ne fait pas le truc, donc on a obligation de le faire, et que si on ne fait pas le truc, on ne touche pas, si je puis dire. Donc il y a une espèce de prise en otage, je dirais. Alors je me demande jusqu'à quel point c'est légal, quoi. Alors,
C'est le problème des missions régaliennes de l'État.
Voilà.
Voilà. Donc c'est vis-à-vis de la loi. Il faut pas oublier une chose, c'est que effectivement c'est contrôlé par la CNIL et que si jamais il y a un usage imbu par un membre du personnel de ce genre d'information, c'est un fonctionnaire qui se retrouve viré. Et je pense pas qu'il retrouvera un emploi de sitôt. Mais après, c'est effectivement, en dehors de tout ça, le croisement des fichiers, c'est l'un des gros problèmes, c'est où la CNIL n'a plus franchement droit de parole depuis 2005, et ça s'est pas arrangé ces derniers temps, malheureusement. Donc voilà. Mais tout ça, on en reparlera demain, c'est à partir de 18h à la médiathèque.
Demain, à la médiathèque José Cabanis, à partir de 18h, la crypto-partie, la sécurité informatique version
sienne et conviviale. Et un apéro à 20h au vélo sentimental avec la communauté de la Quadrature du Net.